Les midis, c'est reparti pour un tour. Bienvenue à toutes et à tous. À 13h, comme promis, on discutera avec Christiana Morganti. Mais d'abord, place au point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Le Centre Pompidou, vous le savez, a fermé ses portes pour travaux, mais il poursuit sa programmation hors les murs. Depuis 20 ans, le festival Hors Piste, programmé par le Centre Pompidou, arpente les nouveaux territoires de la création avec des artistes de toutes les disciplines. Et cette année, c'est à Hermes, dans l'Oise, et pas à Paris, que les artistes vont présenter leurs œuvres. Grégory Palandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire d'Hermes, alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre village? Où est-ce que nous nous trouvons en France?
Alors, Hermes est un bourg rural de 2500 habitants qui se situe en plein cœur de l'Oise, niché dans ce qu'on appelle la vallée du terrain. La vallée du terrain, pour nous, est importante puisque ce village s'est construit autour de l'eau. Puisque je vais vous apprendre également une anecdote, nous sommes également capitale de la brosserie française. Nous sommes en fait à l'origine de la création de la brosserie et de toutes les brosses à façon. Donc c'est une économie qui a vu le jour milieu du 19e siècle. Donc le façonnage de la brosse à dents, de la brosse à cheveux et de toutes les brosses. Il faut savoir que fin 19e siècle, début 20e, les arts de la table fleurissent énormément avec l'arrivée des grands magasins et avec elle donc toute la déclinaison des brosses, brosses à cheveux, mais brosses également pour les arts de la table et les arts ménagers.
Alors peut-être pour entrer dans notre sujet aujourd'hui, comment s'est fait le lien avec le Centre Pompidou? Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers eux ou eux qui vous ont proposé de participer à leur programmation hors les murs?
Alors ce choix a été fait en collaboration avec l'agglomération du Beauvaisis, agglomération à laquelle nous sommes rattachés. Nous sommes un bourg qui sommes connus au sein de l'agglomération pour vanter toutes les formes de culture. Un village également qui promeut l'événementiel. Le Quadrilatère est une structure qui promeut l'art contemporain et qui a réouvert ses portes en avril dernier après 3 ans de fermeture pour rénovation.
Et donc quand le Quadrilatère s'approche du Centre Pompidou, il pense tout de suite à votre village pour devenir un lieu hôte de ce festival hors champ.
Nous sommes en effet fléchés assez rapidement, comme je vous le disais, par rapport à tous les événements que nous organisons. Donc pas que cette exposition, bien évidemment, mais toute l'année, Hermes est ponctuée d'événements en lien avec la culture, des salles d'exposition, des expositions de peinture, un très beau salon du livre également, auquel je vous invite et qui se déroule au mois d'octobre.
Pourquoi avoir choisi dans votre mandat d'axer sur la culture?
C'est une bonne question. Alors, pourquoi j'ai choisi? Et c'était à la base, tout est parti d'un pied de nez, puisque mon prédécesseur, je suis maire depuis 2015. Mon prédécesseur, lorsque j'étais dans l'opposition, m'a toujours dit que la culture ne fonctionnerait pas à Hermes lorsque je proposais des événements. J'ai été à l'initiative du Salon du Livre que j'ai évoqué précédemment. Et lorsque nous l'avons organisé, force est de constater que ça a été un vrai succès. Et donc, j'ai voulu lui démontrer qu'en ruralité, il n'y avait pas de petite ou de grande culture, mais il y avait une culture avec un grand C. Et donc j'ai poursuivi et voilà pour lui démontrer que on était pour le coup dans le vrai et qu'il n'y avait pas de frontières. Et la démonstration, depuis maintenant plus de 10 ans, était faite.
Alors justement, vous avez employé ce mot de ruralité. On parle beaucoup de comment l'art et la culture peuvent irriguer les territoires ruraux. C'est d'ailleurs une des préoccupations du ministère de la Culture en ce moment. Est-ce que pour vous, c'est une préoccupation? Et est-ce que le Centre Pompidou, qui est quand même la grande institution française, qui justement, hors les murs, vient et propose sa programmation dans un village comme Hermes, est-ce que ça vous semble une bonne idée justement pour que la ruralité puisse, elle aussi, participer au grand mouvement culturel?
Alors, il y a deux lectures. Alors, c'est pour moi, bien évidemment, important que nous soyons honorés et fléchés par de grands musées, et en l'occurrence, le Centre Pompidou, musée international, s'il en est. Et la deuxième lecture, c'est également comment, en ruralité, on perçoit l'art contemporain. Mmh. L'art contemporain peut sembler souvent mystérieux, voire pour certains très inaccessible, surtout pour les hermoises et les hermois, en tout cas les administrés en ruralité qui ne sont pas forcément familiers avec ces codes et ces formes. Et on voulait, bien évidemment, et c'est aussi toute la démarche du Centre Pompidou, c'est de faire en sorte que cet art ne soit pas confisqué, fermé à une élite, mais qu'il réponde bien à un langage plus universel.
Et alors, comment vous avez fait justement pour que cette programmation puisse toucher les gens du village ? Est-ce que qui va être exposé ? Est-ce que vous avez choisi avec le Centre Pompidou ? Comment ça s'est passé finalement pour arriver à la manifestation qui va avoir lieu en ce moment ?
Alors, je n'ai pas été décisionnaire des artistes. Tout ça s'est fait, toute la programmation s'est fait dans le département création et culture, dont il y a à la tête Monsieur Pino Minel et puis Géraldine Gomez. Voilà, donc c'est elle qui a orchestré, qui a choisi, qui est allée dénicher tous ses talents. Par contre, ces artistes n'ont pas été choisis au hasard. Ils ont été choisis parce qu'ils avaient une sensibilité à la terre, à l'eau. Je le disais, nous sommes un village qui sommes traversés par trois cours d'eau, et tous ces artistes qui ont été fléchés ont une sensibilité, soit avec l'eau, soit avec la terre, soit avec la matière. Et en fait, au travers de notre bourg, ils ont trouvé voilà ce triptyque qui a fait qu'ils se sont emparés de leur environnement, de notre environnement, avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, sans dégrader. Voilà, en posant leurs œuvres sur huit lieux du village. Donc voilà, c'est cette jonction, cette coordination entre un lieu, une histoire et un territoire, pour le coup, dynamique.
Et comment alors on réagit vos administrés quand ils ont appris la venue de ce festival dans le village ? Et est-ce qu'il a fallu aussi convaincre les autres élus ? Vous parliez de quand vous étiez dans l'opposition. Est-ce que vous, vos élus ont suivi sur ce projet-là ?
Alors, les élus savent qu'ils ont un maire un peu fou, un peu loufoque, depuis maintenant 10 ans. Donc j'ai la chance d'avoir une équipe qui me suit un peu dans mes délires. Ils savent que la culture est pour moi une chose importante, essentielle. Donc, j'ai pas eu de mal à les convaincre. Les administrés non plus, pour le coup. Ça fait déjà depuis un petit moment, au travers de nos diverses manifestations culturelles, je pense également au festival d'art de rue et de théâtre, qu'on commence à les initier à des spectacles engagés, qui aujourd'hui leur parle. Donc quand il s'est agi de les initier aujourd'hui à l'art contemporain, j'avais pas de doute sur la manière dont ils seraient réceptifs. Absolument pas. Et vous pensez bien que lorsqu'un musée d'envergure internationale pose ses valises dans un petit bourg rural de 2500 habitants, alors c'est déjà un peu iconoclaste, hein, mais c'est forcément très 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 honorifique, ouais, bien sûr.
Eh bien, merci beaucoup Grégory Palandre, et puis bon festival alors.
Merci infiniment, merci pour tout.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, la Gaîté Lyrique dénonce le manque de soutien de la ville de Paris.
Alors rappelez-vous, hein, l'établissement avait été occupé par des migrants pendant 3 mois jusqu'en mars dernier, avant qu'il ne soit expulsé de force. Fermé depuis décembre, la salle de spectacle accuse une perte exceptionnelle de 3 millions d'euros. Ses membres dénoncent un revirement de la mairie de Paris qui refuse de compenser financièrement ce manque à gagner, alors que, selon leur communiqué, le conseil municipal avait pris plusieurs résolutions en ce sens. La ville de Paris, qui est propriétaire du bâtiment, a été mise en demeure par la Gaîté Lyrique, qui craint pour l'avenir de ses 60 salariés. La salle regrette que ce revirement prive le public d'un lieu auquel il témoigne au quotidien la puissance de son attachement.
Et pour finir, Marie, les Français défendent le doublage en version française.
Oui, c'est ce qu'indique un sondage réalisé par l'IFOP à la demande de l'association Les Voix. Il indique que 74% des Français préfèrent regarder des films doublés en version française. 87% pour les plus de 65 ans, 54% pour les 25-34 ans. Oui, donc c'est pas que les plus âgés. Dans l'agglomération parisienne, ils sont 44% à préférer la version sous-titrée, alors qu'ils ne sont qu'un cinquième dans les communes plus rurales. Le président président de l'association Les Voix a expliqué que le savoir-faire des voix françaises est menacé par l'usage de l'intelligence artificielle, auquel recourent déjà plusieurs studios. Les sondés semblent être de cet avis, puisque 73% d'entre eux seraient prêts à boycotter un film ou une série qui recourait à des voix produites par intelligence artificielle. L'association Les Voix dénonce par ailleurs un manque d'encadrement légal du doublage et le risque que fait peser l'IA sur l'industrie du doublage en France.
Merci Marie, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h, vous êtes sur France Culture.